Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Alors le christianisme en France, si on peut dire qu'il se repose sur trois personnes éminentes, on dira Bernard de Clairvaux, qui malheureusement est un petit peu après le schisme, donc je n'ai pas vraiment le droit de l'appeler saint, mais bon, lisez-le, vous verrez, c'est effectivement évidemment un saint. Saint Martin de Tours, hein, qui est connu pour cet épisode où il a coupé son manteau en deux pour le donner à un pauvre. Et ce couple, je dirais Clovis et Rémy. Et je vais essayer de parcourir cet évangile avec les commentaires de Saint Rémy qui me permettent, je pense, de donner un éclairage assez nouveau pour répondre à quelque chose d'un peu incompréhensible dans cet évangile. Si vous, en l'ayant entendu, si vous trouvez tout absolument normal, je trouve ça un peu étonnant. Alors, la mère de Galilée, nous dit Saint Rémy, s'appelle aussi lac de Génézareth, mère de Tibériade, lac des Salines. Donc cet évangile, déjà, il est dans une géographie. Alors ce lac, ou cette mer, est assez grand, là, quand même, 20 km sur 13, 160 km². Elle est traversée par le Jourdain. Si on regarde les informations qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est un endroit qui est riche en poissons, qui est sous le niveau de la mer, qui est connu pour ses tempêtes violentes. Donc ça nous rappelle déjà des choses des évangiles. Si vous regardez les montagnes autour, vous avez le mont Tabor, c'est quand même l'endroit où le Christ a fait sa transfiguration. Vous avez le mont des Béatitudes, qui en fait est une petite colline au nord, près d'une ville qui s'appelle Tabba. Et en termes de ville, c'est pas mal aussi pour nous autres chrétiens, puisqu'il y a quand même Capharnaüm et Bethsaïde. Alors dans Josué, le lac s'appelle lac de Kinneret. Et dans la tradition rabbinique, c'est aussi un endroit important, puisqu'on trouve le mausolée de Rabbi Akiva et de Moïse Maïmonide. Alors, saint Augustin, bienheureux Augustin, nous dit, en commentant cet évangile, « Il ne choisit ni des rois, ni des sénateurs, ni des philosophes, ni des orateurs, mais des plébéiens, des pauvres, des pêcheurs sans instruction. S'il avait choisi des savants, peut-être aurait-il dit qu'ils étaient choisis en considération de leur science, mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu briser l'orgueil des superbes, n'a point cherché à prendre des pêcheurs par des orateurs, mais c'est par des pêcheurs qu'il a gagné des empereurs. Cyprien est un grand orateur, mais nous voyons avant lui Pierre qui n'était que pêcheur. Hein, on l'a chanté il n'y a pas si longtemps, le tropaire de la Pentecôte nous dit que le Christ a rendu maître en sagesse ceux qui étaient de simples pêcheurs. » Alors là, on a déjà un premier prisme qui peut être problématique, parce que pour nous, aujourd'hui, quelqu'un d'illettré est forcément inculte. Mais dans une société où prédomine l'oralité, ne savoir ni lire ni écrire ne veut absolument pas dire qu'on ne connaisse rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Christ à amener ces personnes-là au maximum de leurs capacités, des talents dont Dieu les avait dotés, mais il ne les a pas transformés en ce qu'ils n'étaient pas. Ils avaient, au moment où il les a appelés, déjà cette dignité d'apôtre, déjà cette capacité d'être des maîtres en sagesse, et eux avaient cette occupation profane d'être des pêcheurs. Imaginons un instant, et ce n'est pas déraisonnable que de le penser, que nous avons affaire à des personnes, avant qu'ils rencontrent le Christ, qui sont déjà très très pieuses, qui sont bien instruits de leur tradition, bien instruits de leur loi, qui sont très observants, hein, on imagine qu'ils vont à la synagogue, ils font tout leur shabbat, tout bien. Pourquoi, finalement, s'ils avaient l'envergure de maître en sagesse, de grand maître spirituel, ne sont-ils pas dans les autorités sacerdotales de leur époque? Eh bien, regardez à quoi ressemblaient les autorités sacerdotales de leur époque. Quand on voit ce que c'était, c'est-à-dire la collusion avec les Romains et l'incapacité et la non-grandeur spirituelle des gens de cette époque-là, on comprend qu'ils aient préféré, finalement, nourrir leur famille et subvenir à leurs besoins en prenant une activité profane telle que la pêche. Donc déjà, première chose à remettre un peu en perspective, ils étaient probablement illettrés, mais ce n'étaient absolument pas des incultes. Alors Saint-Rémy commente aussi les paroles de la fin de cette péricope en disant « Guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple », il nous dit « Ceci apprend aux prédicateurs que l'enseignement doit s'appuyer sur les vertus. La maladie exprime ici les maladies de l'âme et l'infirmité celle du corps. » Donc, ce que nous dit Saint-Rémy, c'est que quand Matthieu nous dit « Guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité », ce n'est pas de la rhétorique, ce n'est pas de la littérature, on n'est pas dans une figure de style à la Chateaubriand. On fait référence à deux choses bien précises. Un peu plus tard dans la liturgie, je vais demander à Dieu pardon et rémission des péchés et des fautes. Donc le pardon et la rémission, ce n'est pas la même chose. Et le péché et la faute, ça n'est pas la même chose. Hein, le vocabulaire théologique, il est d'une précision chirurgicale. Et donc j'ai regardé le grec qui fait référence à l'hébreu, etc. Et vous, là, la maladie, elle est donnée par rapport à un commandement dans le Deutéronome et l'infirmité par rapport à un commandement dans l'Exode. On voit que c'est très précis. On dirait que ça se ressemble, mais finalement ce sont deux réalités différentes. Et on voit que Jésus guérit les deux. Mais il les guérit après. Et donc, question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi les apôtres ont suivi le Christ? Pourquoi? Parce que, bon, bah, nous, on connaît le Christ, on l'a reçu par l'Église, on a toute la tradition. Donc, on a vu le Christ vaincre la mort, on a vu le Christ répondre aux docteurs de la loi de son époque de façon impériale, on a vu le Christ multiplier les pains, ressusciter les morts, guérir les maladies, etc. Mais au moment où il les appelle, il n'a rien fait de tout cela. Ils ne le connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans une, ils sont dans une barque? Il y a quelqu'un qui les appelle du bord et qui leur dit « Allez, venez, vous abandonnez tout et vous venez après moi. » Ça ne vous a jamais semblé quelque part entre étonnant ou absurde? Et si on va même sur le plan, on va dire, moral, je me fais un peu l'avocat du diable, au moins pour Pierre, on en est sûr, il avait une famille à charge. Donc il a abandonné son moyen de subsistance pour aller vers quelque chose dont on peut être sûr que ça n'a rien rapporté. Et donc on peut dire, bah, finalement, il a laissé sa famille sans ressources. Tout ça pour suivre quelqu'un dont, à ce moment-là, on ne savait rien. C'est quand même étonnant. Donc il y a quelque chose dans cet évangile, finalement, qui nous échappe. Il doit y avoir, et donc je suis un petit peu les indices que nous met Saint-Rémy, il doit y avoir une sorte de mot-clé qui a réveillé chez les futurs apôtres quelque chose. Hein. Saint-Jean Chrysostome nous dit « Il les surprend alors qu'il vient les appeler au milieu de leurs occupations parce qu'il veut nous apprendre que pour le suivre, il faut quitter toute autre affaire. C'est pour cela qu'il est dit « Ils jetaient alors leur filet dans la mer ». C'est en effet une des occupations de leur état, comme l'évangéliste le remarque, car ils étaient pêcheurs. Donc on voit bien la dimension symbolique, ils pêchaient des poissons, ils vont se mettre à pêcher des hommes. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Leur profession était aussi un symbole de leur dignité future, voilà. Car de même que le pêcheur, lorsqu'il jette ses filets dans l'eau, ignore quel poisson il va prendre, ainsi le prédicateur, lorsqu'il jette sur le peuple qu'il écoute le filet de la parole divine, ignore quels sont ceux qui vont venir à Dieu. C'est Dieu lui-même qui excite ceux qui doivent embrasser sa doctrine. Saint Grégoire va plus loin dans cette chose étonnante. Il dit « Ni Pierre ni André n'avaient vu Jésus opérer des miracles. Ils ne l'avaient pas entendu parler des récompenses éternelles. Et cependant, sur le seul commandement qu'il leur fait, ils abandonnent tout ce qu'ils paraissent posséder. Aussitôt, hein, c'est instantané, ils quittèrent leur filet et le suivirent. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est plutôt la disposition de leur âme que l'importance de ce qu'ils abandonnent. C'est beaucoup laisser que de ne réserver rien, c'est beaucoup abandonner que de renoncer non seulement à ce qu'on possède, mais à tout ce qu'on pourrait désirer encore. » Il conclut « Le royaume de Dieu est d'un prix inestimable, il vaut tout ce que vous avez. Ça ne répond toujours pas à la question. Alors, regardons. Matthieu nous rapporte une seule phrase du Christ. Donc, c'est là, finalement, que tout se joue. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Et donc, Rémi nous dit, Saint Rémi, le Seigneur parle de ses pêcheurs par la bouche du prophète Jérémie. En ces termes, je vous enverrai mes pêcheurs et ils vous prendront dans leur filet. C'est pour cela que l'évangéliste ajoute ici ces paroles de notre Seigneur, venez à ma suite. Donc ce que nous dit Rémi, allez voir Jérémie et vous comprendrez ce qui se joue pour les apôtres au moment de cet appel. Hein, il y a la glose aussi, un commentaire patristique anonyme qui dit, venez non pas tant, en me suivant extérieurement qu'en m'aimant et en m'imitant, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Alors, la prophétie de Jérémie, je vais vous lire, elle va vous paraître terrible. Et ça, c'est une pierre d'achoppement aussi pour la compréhension de qui est Dieu et de sa relation à nous. Il y avait un hérétique du début de l'Église qui s'appelait Marcion, qui n'arrivait pas à recoller les morceaux entre un Dieu qui paraissait très dur dans l'Ancien Testament et un Dieu plein d'amour dans le Nouveau Testament. Il disait, c'est pas le même Dieu, c'est pas possible. Et donc, il rejetait l'Ancien Testament à cause de ce genre de passage. Il faut bien comprendre en fait que, imaginez, vous connaissez, quelqu'un qui travaille dans un métier très dur, policier ou militaire dans un corps spécial et tout. Si vous le côtoyez dans son domaine professionnel, vous verrez quelqu'un, probablement, très dur, très rigoureux, très strict. Et si vous le voyez dans le cadre familial en train de jouer avec ses enfants, vous verrez quelqu'un de très affable, de très bon, de très doux. Et finalement, là où nous devons recoller les morceaux, il faut qu'on se dise, c'est le même. C'est exactement le même. On parle de la même personne. On parle du même Dieu. Alors voici cette prophétie que Dieu fait à son prophète Jérémie. C'est le chapitre 16, si vous voulez aller voir ensuite chez vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alors ça d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut commencer par cette phrase-là pour dire « Voici une prophétie ». Parce qu'il faut savoir déterminer le moment où le prophète parle pour lui-même et le moment où le prophète parle pour Dieu. Et si jamais vous, un jour, vous vous adressez à une assemblée en disant « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots », vous êtes en train de nous dire « Je vous dis une prophétie ». Si vous racontez n'importe quoi, on est censé vous lapider, donc faites attention. Donc, « Vayehi davar Adonai, il est mort », là on sait que ensuite c'est Dieu qui parle. « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrées dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. Ce qui est très intéressant quand on se souvient que le Christ, juste derrière, va s'attaquer à la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision, et l'on ne se rasera pas pour eux, qui est un signe de deuil. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Si vous regardez cette prophétie, et si vous voyez comment les Romains traitaient les Juifs de cette époque-là, hein, ils crucifiaient des gens, ils les laissaient pourrir dehors, la société était un peu inversée, et les Romains poussaient pour qu'on adore l'empereur en tant que Dieu. Donc pour les apôtres, cette prophétie de Jérémie, elle paraissait terriblement concrète. Hein, ils voyaient se manifester finalement les effets de cette prophétie terrible sur leur vie. Le prophète continue. « Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères, et là vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » C'est comme si Dieu les avait abandonnés. Et là, quelque chose qui est un grand classique dans les livres des prophètes, finalement, Dieu semble se retourner et changer d'avis. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et donc, qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur du cœur et de l'esprit des apôtres? Ils se sont dit, c'est nous qui allons remplir ce rôle de pécheurs et de ramener tout le monde vers le Seigneur pour que s'arrête cette horrible occupation romaine. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous savez que avant cette rencontre, ils connaissaient un peu Jésus. Le Baptiste leur avait dit, lui, c'est l'agneau de Dieu, suivez-le. Donc ils n'ont pas suivi quelqu'un comme ça, venu de nulle part. Ils ont suivi quelqu'un qui avait été désigné par un prophète de Dieu. Donc, je dirais par quelque chose de sérieux. Et là, les apôtres, alors vous trouvez ça finalement très peu humble, mais ça n'est jamais que la réalité des choses en fonction de ce qu'ils étaient capables de faire. Les apôtres ont compris que cette personne, est-ce qu'à ce moment ils savent que c'est le Messie? Bon, c'est pas très clair, ils doivent le prendre pour un prophète ou quelqu'un comme ça. Cette personne-là leur demande d'être les pécheurs dont Dieu a parlé à Jérémie. Et ces pécheurs ne vont plus simplement pêcher des poissons, bien évidemment, mais ils vont pêcher des hommes pour ramener tout Israël vers le Seigneur pour que s'arrête cette période terrible. Voilà ce qui s'est joué dans cet appel. Donc on n'a pas affaire à des apôtres un peu simplets qui suivent le premier venu et qui abandonnent leur famille comme ça. D'ailleurs, sur l'abandon de la famille, on peut aussi être rassuré. Bien évidemment, la communauté naissante des disciples a évidemment pris en charge ceux qui étaient auparavant dans les familles avec les apôtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous, aujourd'hui? Parce que le Christ, il a su voir dans ses pécheurs des apôtres. Hein, et des fois, il y a des gens qui ne sont pas du tout à leur place, et qui finalement, qui sont dans des places très modestes, et puis qui finalement sont appelés à des choses beaucoup plus grandes. Imaginez que vous allez dans l'office de dépôt des brevets au début du XXe siècle, et vous rencontrez quelqu'un qui était un gratte-papier, ben vous auriez pu tomber sur Albert Einstein. On ne s'attend pas à le trouver dans un office de dépôt des brevets. Voilà. Ou Newton, qui était un simple étudiant à Cambridge. Bon. Il faut le temps pour que les choses apparaissent. Et l'appel du Christ aux apôtres, ben cet appel, il se transmet à nous aujourd'hui et il nous dit quoi? Il nous dit, devenez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Vraiment. Et donc ça nous appelle chacun à l'examen. Qui sommes-nous? Alors je vous donne une méthode patristique de découverte de qui nous sommes véritablement. Une icône, une bougie, un psautier, et vous priez devant votre icône pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de vous dans votre vie. Pourquoi il vous a créé finalement? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et ensuite, bah, vous irez faire vérifier ça par un père confesseur, hein, pour savoir si on n'est pas guidé par notre imagination. Il faut toujours être vérifié par quelqu'un d'autre. Bon, eux, ils ont été vérifiés par le Christ, donc il n'y avait pas beaucoup de doutes. Voilà. Là, je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre nous. Essayez de trouver qui vous êtes. Et jamais trop tard pour sortir d'une voie de garage. Il n'est jamais trop tard pour être un véritable disciple du Christ et trouver sa place dans l'Église, à lui seul la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.